Pour pénétrer dans cet entrepôt, ils ont, il y a quelques minutes, poussé une grille et forcé une porte. Ils vont squatter l'endroit à l'espace d'une nuit pour y organiser une soirée. Ils sont une dizaine. La plupart d'entre eux se sont connus au lycée. Un maximum de culots, un minimum de matériel, c'est-à-dire une bonne grosse sono bien rustique et un groupe électro sans gêne, il n'y a pas de plaisir. Nous sommes chez ceux qui se considèrent comme les purs et durs. Bienvenue sous terre, welcome underground.
Rave, teuf, free party, tawa selon les générations, la fête que l'on dit underground rassemble les noctambules férus de gros caissons. Derrière ce cliché apparent, celui d'une horde de jeunes désœuvrés qui, de toute évidence, apprécient de se faire exploser les tympans dans une usine désaffectée, un besoin, une quête, la liberté. Mais pour ça, il nous faut remonter le temps. Histoire de rave, en France, ça commence maintenant. Imaginez-vous au début des années 80 de l'autre côté de l'Atlantique. Avant de parler de techno, la house fait son apparition. Les premiers disques jockeys mixent une musique électronique aux accents disco. Engendrée par la communauté homosexuelle noire américaine, la house music s'épanouit en marge de la société, dans les ghettos de Chicago. Et la déferlante électronique ne tarde pas à gagner l'Europe, d'abord en Angleterre avec les premières fêtes illégales bien loin des clubs, les Acid House Parties. Vous vous en doutez, les rêveurs ont rapidement conquis le cœur des Français. Et pour m'en parler, l'instigateur des premières raves dans l'Hexagone, les adeptes le reconnaîtront, rencontre avec Manu Casanin.
Moi j'ai découvert ça en janvier 87, quoi, des amis anglais, parce que j'allais souvent en Angleterre. Et des amis anglais m'ont dit « Allez, on va dans une acid house party ». Donc au début, je voulais pas y aller. Je voyais pas l'intérêt d'aller là-bas parce que moi, j'écoutais pas de disco, de trucs comme ça. Et pour moi, acid house, tel que j'en avais entendu parler, c'était une musique dérivée de la disco. Puis finalement, je me laisse entraîner dans cette première acid house. Et là c'est... c'est, comment dirais-je, ça a été la découverte, quoi. Enfin voilà, quoi, c'est l'illumination, quoi, carrément. Questions have been made about this new dance craze called acid. What people really want to know is how the story all goes about acid.
Il faut ensuite attendre le début des années 90 pour que le terme rave se propage sur toutes les lèvres. Pour la première fois depuis les années Woodstock, la culture rave réunit un public hétéroclite de jeunes dont la soif de liberté est étanchée par les beats de la techno naissante.
Au début, c'était vraiment underground, donc quand je dis underground, il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je venais du punk et je dirais on sortait d'une période où les jeunes étaient en gang, enfin sans être en gang, mais en style de musique, et donc quelque part, tout le monde était cloisonné, tout le monde était barriéré. Et justement, moi, la première expérience en Angleterre, c'est de voir que toutes les barrières se sont cassées la gueule, quoi. Que des skins que je ne pouvais pas supporter, danser avec des blacks, avec des paquis, avec des... Enfin voilà, quoi, que tout le monde se mélangeait, la jeunesse se mélangeait. Et ben j'ai essayé d'importer ça en France. Ça a démarré sur des petites soirées, des péniches, des choses comme ça, quoi. Et puis petit à petit, ça a grossi jusqu'à faire des grosses soirées de 2000-2500 personnes en 90-91. C'était assez facile, quoi. Même les flics venaient aux soirées, ils ne savaient même pas ce que c'était, quoi. Ils ne connaissaient pas cette musique, ils ne connaissaient pas... Moi, je sais que j'ai fait une grosse soirée à l'usine Chausson d'Anières, le jour de mon anniversaire, où il y avait quand même 2000 personnes, et les filles qui ont débarqué à 6h du matin, nous ont dit « qu'est-ce qui se passe ici ?» Bah, en fait, mon anniversaire, ils ont regardé, ils ont vu une fête avec au moins 2000 personnes, ils sont repartis, quoi. Chose qui n'arriverait plus du tout maintenant.
Et pourtant, la rave, c'est rapidement devenu ça.
Alors les jeux de piste et le fait qu'on ne sache pas où ça se tienne et qu'il y ait des rendez-vous secondaires et tout, ça fait partie un petit peu de la mythologie des rêves.
Mais c'est pas une mythologie, c'est pour se cacher de la police surtout. C'est la teuf, les keufs, vous voyez, c'est pas vraiment la même chose, on converge pas vers le même point. Parce qu'ils veulent nous empêcher de les faire, parce qu'il paraît que c'est un fléau pour la jeunesse.
Peut-être aussi à cause de ça.
Bon alors oui ou non, grande circulation d'ecstasy et de drogues diverses dans les rêves.
Tout ce qui va autour de la techno et surtout ce qui dérange les autorités, donc les drogues, donc l'ecstasy qui était vendu dans ces lieux, enfin, ou qu'on trouvait facilement dans ces lieux. Ça a commencé à être réprimé en 93-94. J'ai subi des perquisitions à 6h du matin parce que je parlais de cachet de DJ, parce que je représentais des DJ au début des années 90. Et donc, t'as reçu les cassettes, bah oui, parce qu'à l'époque, on envoyait les mix en cassette et non pas en CD. T'as reçu les cassettes, ouais, bon, le cachet d'artiste, c'est combien, c'est tant. Et puis t'es sur écoute, et puis un matin, t'as les flics qui débarquent chez toi parce qu'ils t'ont entendu parler de cachets, donc pour eux, c'est les cachets, des cachets d'ecstasy. Et les cassettes qu'avaient reçus les gens, c'était est-ce que t'as bien reçu les ecstasy ? Allez, où la liberté ?
La teuf, c'est être libre. Mais comme pour le rock, les amateurs de techno associés à la fête illégale ont affaire à une opinion publique hostile. Pour les instances publiques, cette liberté doit être encadrée. Le fameux amendement Mariani en 2001 contraint les organisateurs à déclarer ces rassemblements un peu trop festifs. Mais rien à faire, pour certains, la fête doit rester libertaire. Les free parties voient le jour et vont se distinguer des raves en s'inscrivant dans l'illégalité. Et la drogue dans tout ça ?
Le premier problème de la drogue, c'est que c'est bon. Et ça, on peut pas le dire parce qu'on a encore une loi qui t'interdit de présenter les drogues sous un jour favorable. T'es obligé de le présenter sous un jour défavorable. Donc du coup, il te manque un élément objectif de présentation des drogues.
Moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 27 ans, je suis volontaire à Techno Plus depuis octobre 2017. Alors Techno Plus, c'est une asso qui a été créée en 1995 par des teufeurs qui allaient en teuf, qui profitaient de la musique techno, qui se droguaient, qui prenaient des tasses, puis qui voyaient qu'il y avait des problématiques de surconso. Et leur but c'était de condenser les informations de la pratique des gens concernés par cette pratique avec des données scientifiques, ce qui a créé les premiers flyers. Et le but c'était de diffuser de l'information objective au maximum de personnes, et objective notamment sans jugement de valeur sur la consommation, sans discours moralisateur.
Tu vois, là c'est notre mal fly qu'on emmène en teuf.
Wow.
C'est celle qu'on emporte pour poser sur le stand. On a des fly aussi, d'autres assos.
Alcool, cannabis, champi.
Ouais, c'est ça, tu vois, on a tout. Et ça, du coup, c'est notre logisticien qui les imprime, les plie. C'est un temps phénoménal. Le but, c'est aussi de faire valoir les valeurs de la techno dans des instances publiques, politiques. À travers le fait d'être une asso subventionnée aussi, on a une possibilité de pouvoir parler de la culture techno et de pouvoir la mettre en avant. Donc c'est la musique techno, la musique électronique, c'est les valeurs de liberté qui sont émises par la teuf, les valeurs d'inclusion, des valeurs aussi un peu anticapitalistes, parce que le but étant pas de faire des profits. D'ailleurs, les organisateurs de free party font rarement de profits, ils sont plutôt à perte. Tu peux avoir des sets de tout en fonction dans une free party, dans une rave party, dans une teuf. Il y a aussi cette notion de... ça va pas toujours être propre, ça va pas toujours être exceptionnel, parce que c'est des gens qui font ça sur leur temps libre. La free party, le but, c'est aussi de permettre à des personnes de découvrir et de manier de la machine devant un public et plus juste derrière ton bureau, chez toi, dans ta chambre. C'est toujours ce truc d'accessibilité, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, un peu de valeur aussi anticapitaliste, de partage, etc. C'est le but, c'est de s'ouvrir à tout le monde, de pas être dans un truc élitiste.
J'avais cette conversation du coup avec Manu Casana qui me parlait des origines, des premières teufs, et avec justement ces valeurs autour de la fête, et il me donnait son avis sur... la teuf aujourd'hui.
La fête nous réunit et nous donne envie d'avoir, enfin nous donne pas envie, mais nous prête à faire attention à autrui, à se sentir impliqué dans un tout, quoi, et non pas juste dans un individualisme ou quelque chose comme ça. C'est ça qui était bien aussi à l'époque.
C'est plus le cas.
Du tout. Si, il y a peut-être quelques collectifs, mais peut-être que moi j'ai plus les contacts pour ça, quoi, des collectifs de jeunes qui portent encore une partie de ces valeurs, ou tout du moins sans vouloir les porter, qui permettent par leur organisation, par leur soirée, de ressentir ce genre de liberté, quoi. Mais je pense que c'est de plus en plus rare, et puis de toute façon ces musiques et ce mouvement a plus qu'été récupéré, quoi. Que ce soit par les clubs, que ce soit par les médias, que ce soit par tout le monde, on est retombé dans une récupération, une utilisation, que ce soit de la musique ou des produits qui peuvent être pris, c'est une utilisation individualiste, c'est plus une utilisation généraliste.
J'aurais tendance à rejoindre un peu Manu Casana par rapport au transfert de savoir et de connaissance des gens qui l'ont vécu il y a 10, 15, 20 ans. Et je trouve quand même effectivement que il y a peut-être moins de valeur de partage, en tout cas il y a un peu plus de consommation de la fête. Encore une fois, ça va dépendre aussi des gens qui organisent, ça va dépendre de ce que veulent mettre aussi les orgas dans leur teuf, comment ils vont propager et diffuser la manière dont eux-mêmes absorbent les valeurs de la free party. Il y a peut-être
moins de solidarité dans les moments de conflit avec la police. Et encore, je trouve que moi, sur les dernières free parties que j'ai faites, notamment Luron et Redon, qui ont été particulièrement compliquées et violentes, il y a eu un esprit de solidarité, il y a eu des gens qui ont pris soin d'autres, sans forcément être dans un truc de volontaire, dans une asso de santé communautaire. Par contre, le confinement, avec la porosité entre des milieux plus club, intramuros, où c'est, à mon sens, et c'est très, peut-être un peu jugeant, mais très individualiste, le fait que les personnes se soient aient connu le milieu free party, du coup, il y a peut-être cette porosité-là qui fait qu'on a l'impression que c'est plus de la consommation. En même temps, ils peuvent aussi, au fur et à mesure, s'imprégner des valeurs de la teuf et être plus collectifs.
Bon, du coup, on le sait, la culture rave, elle a été plus que récupérée. Elle influence même des soirées légales, comme les célèbres Possessions à Paris. Et justement, moi je me retrouve dans ce qu'on appelle une warehouse, mélange entre teuf dans un squat et club. Ça se passe dans un immense hangar où les sets de DJ s'enchaînent jusqu'à 14h le lendemain. Avec moi, Pauline, grande habituée de ces soirées, mais tout aussi dingue des free.
Je dirais que la grande distinction que moi je fais en tout cas, c'est que dans les free, il n'y a vraiment pas d'aspect commercial. C'est une ambiance vraiment de liberté, genre chacun est le bienvenu comme il est, et tu peux retrouver tout type de personnes. T'as les babos à chiens, t'as les gens comme moi, enfin tu as vraiment un public hyper ouvert. Et c'est bienveillant en fait. Les warehouses, c'est devenu un peu commercial. Je me souviens que quand j'ai commencé à en faire, c'était pas aussi cher. Maintenant, je vois par exemple, tu as des Possessions X Boiler Room qui peuvent monter jusqu'à 50 euros. Ça restreint quand même le public.
Depuis les premières raves, la place de la techno et des DJ a bien évolué. Mais une chose est sûre, les premières raves continuent de faire rêver. C'est aussi peut-être un sentiment d'éternité qui fait vibrer ces passionnés jusqu'au petit matin. Histoire de rave, en France, la teuf n'a pas fini de s'exprimer.